Les 20 ans de l'OQAI, habiter dans des bâtiments sobres et performants en énergie.
Oui, bonjour à tous, rebonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour ce colloque sur les 20 ans de la qualité de l'air, de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Nous entrons dans notre session habiter dans des bâtiments sobres et performants. Énergie pour commencer. Alors la transition énergétique puis environnementale menée notamment depuis ces 20 dernières années s'est traduite peu à peu en réglementations qui ont transformé la conception des bâtiments. Aujourd'hui, on le sait, un bâtiment se doit d'être donc sobre et performant en énergie. Mais quels sont les impacts en termes de qualité de l'air intérieur? Quels enjeux cela pose-t-il? C'est tout l'objet de notre session d'aujourd'hui, donc habiter dans des bâtiments sobres et performants en énergie. Nos intervenants, Monsieur Derbez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de projet air intérieur et performance énergétique des bâtiments au CSTB. Vous allez nous présenter les enseignements du programme justement bâtiments performants en énergie de l'Observatoire de qualité de l'air intérieur. À distance, nous retrouverons monsieur Yael Laverge, professeur et chercheur de l'université de Gand en Belgique, qui mettra ses travaux en perspective au niveau européen. Puis nous en discuterons avec monsieur Patrice Blondeau, enseignant-chercheur de l'université de La Rochelle, qui est également à distance, et Marie-Angèle Sanchez. Bonjour madame, qui est avec moi dans le studio, je suis ravie de vous accueillir. Donc vous êtes ingénieur suivi des innovations de l'agence Qualité Construction. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Monsieur Derbez, je le rappelle, vous avez donc mené les travaux de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur bâtiment performant en énergie. Quels enseignements avez-vous tirés de ces travaux ?
Merci de me donner la parole. Avant de vous présenter donc les résultats du programme bâtiment performant d'énergie de l'OQAI, je voulais juste resituer le contexte et dans quel cadre cette étude a été initiée. En fait, elle a commencé en fin 2011, début 2012, et c'était une période pendant laquelle la RT 2012 était sortie, mais n'était pas encore mise en vigueur, et il y avait un vaste chantier de rénovation énergétique qui avait été planifié avec un objectif de 500 000 logements à rénover par an. En septembre 2012, la conférence environnementale pour la transition écologique a montré une vigilance particulière sur la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments performants d'énergie. Et donc c'est dans ce contexte-là que l'ADEME, les ministères en charge de l'environnement, du logement, de la santé et l'ANSES ont souhaité avoir des éléments factuels sur la qualité de l'air intérieur sur des bâtiments récemment construits ou faisant l'objet d'une rénovation énergétique. Et c'est dans ce cadre-là que le programme donc de l'Observatoire de la qualité de l'intérieur sur les bâtiments performants en énergie a vu le jour. Alors, ce programme, il se compose donc d'un dispositif qui se scinde en deux parties. Le premier, donc c'est un protocole harmonisé de mesurage, de collecte de données et de transfert d'informations. Donc, tous ces protocoles ont été élaborés par l'OQAI avec tous les collaborateurs, avec tous les partenaires scientifiques et techniques, donc du réseau de l'OQAI. Et ensuite, le deuxième volet, c'était une base de données de référence qui est gérée, validée par l'OQAI et qui sert à collecter finalement toutes les données qui sont recueillies sur le terrain par les opérateurs qui mettent en place le dispositif et le protocole harmonisé. Ceci nous a permis finalement d'exploiter ces données de façon périodique, de façon à dresser régulièrement l'état de la qualité de l'environnement intérieur dans ces bâtiments, et aussi d'identifier des points de vigilance et proposer éventuellement des pistes d'amélioration. Donc au final, il y a 32 opérateurs engagés dans le dispositif grâce au soutien donc financier de l'ADEME ou de cofinanceurs locaux comme les DREAL, les ARS, les conseils régionaux ou alors sur des fonds propres. On distingue trois catégories de partenaires. Les premiers sont les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, dont quelques-unes ont participé au dispositif. Elles étaient en binôme avec les directions territoriales du CEREMA. Et puis, on avait aussi beaucoup de bureaux d'études. Il y avait également, bien sûr, le CSTB, l'INERIS et un laboratoire de recherche universitaire. Il faut savoir que 90% des bâtiments qui ont été enquêtés dans ce programme étaient des bâtiments à usage de logement. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait un focus sur les résultats des logements. Donc 128 logements occupés ont été investigués. Ils ont été sélectionnés sur la base du volontariat. Alors ça, c'est la différence avec les campagnes nationales logement, école et bureau. Et c'était des bâtiments qui faisaient partie du programme PrébAT. Pour les bâtiments neufs, la majorité des bâtiments sont des bâtiments qui sont construits selon la réglementation thermique 2005, mais avec des seuils de critères de label énergétique existants. Tel que BBC 2005 ou...
On le rappelle, BBC est un bâtiment de basse consommation.
Exactement. Et il y avait très peu de bâtiments qui étaient construits selon la RT 2012. Et puis ensuite, les bâtiments rénovés devaient avoir des critères de label type EFINERGIE Rénovation. Voilà. Donc sur les 82 bâtiments, comme vous pouvez voir, il y avait 28 maisons individuelles, 54 immeubles collectifs. Donc qu'est-ce qu'on a fait concrètement? On est allé dans chacun de ces logements pendant une semaine, à deux reprises, en période de chauffe et en période de hors-chauffe. Et à chaque fois, on mesurait les paramètres, les indicateurs de confinement, le CO2, les paramètres du confort thermique, température, humidité. Des paramètres de pollution, donc les composés organiques volatiles, les aldéhydes, les particules, le radon, le dioxyde d'azote. On faisait également une inspection visuelle pour identifier la présence de moisissures visibles. Et on faisait aussi un prélèvement qui permettait de détecter l'activité fongique des moisissures, voir si une moisissure était en train de se développer. Et puis enfin, on faisait des mesures de pression et de débit au niveau des bouches de ventilation des VMC. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a comparé les résultats de la qualité de l'environnement intérieur de ces bâtiments-là avec les résultats obtenus dans le cadre de la campagne nationale logement, campagne nationale donc CNL1. On a pu montrer que la qualité de l'environnement intérieur était globalement similaire, voire meilleure que dans le parc existant de logements, à quelques points près. Et on a certains points de vigilance qui sont apparus. On a des valeurs plus élevées de la température, des concentration de l'hexaldéhyde et de l'alpha-pinène pour les deux saisons, concentration plus élevée pour le limonène en période de chauffe, et enfin une proportion plus élevée de logements qui présentaient une contamination fongique active, mais on avait par contre une proportion plus faible de bâtiments présentant des moisissures visibles. C'était un peu une découverte. Donc on a essayé d'expliquer ces spécificités. Nous avons eu donc du coup recours à des méthodes statistiques qu'on utilise assez régulièrement à l'OQAI avec nos collègues statisticiens pour rechercher les facteurs qui étaient à l'origine de ces spécificités. Pour ce qui est donc des deux paramètres de pollution. J'ai pris l'exemple d'un des terpènes, qui est l'alpha-pinène, et puis de l'hexaldéhyde. On a pu montrer, grâce au modèle statistique, qu'on avait une augmentation des concentrations de l'alpha-pinène lorsqu'on avait une présence d'ossature bois, c'est-à-dire que les parois du logement étaient en ossature bois. On a montré également que cette concentration d'alpha-pinène pouvait être expliquée par la présence d'un isolant végétal qui se trouvait juste au-dessus du logement, si ce logement est au dernier étage de l'immeuble, et aussi en lien avec la présence de mobilier exclusivement en bois. Pour l'hexaldéhyde, on a également l'incidence de l'ossature bois qui apparaît et le type de revêtement de sol. S'il était en bois, on avait une augmentation de concentration d'hexaldéhyde. Donc ces déterminants, on les a confrontés avec la littérature, donc c'est tout à fait conforme à ce qu'on avait déjà identifié. Voilà.
Mais c'est des points qui sont quand même très intéressants parce que c'est vrai qu'on va en plus, on se dirige vers une réglementation environnementale qui favorise la présence des biosourcés, du bois dans les structures, dans les panneaux, etc. On en reparlera tout à l'heure, mais c'est très intéressant d'avoir ces mesures-là.
Alors tout à fait. Alors ce qu'il faut aussi souligner, c'est que pour l'alpha-pinène et le limonène, à la différence des autres composés comme l'hexaldéhyde, on n'a pas de valeurs guide ou des valeurs de réglementaires. Il y a très peu de données documentées sur l'impact sanitaire de ces composés. Donc on a encore beaucoup de connaissances à acquérir. En revanche, ce que l'on sait, c'est que en période estivale, on peut avoir les terpènes avec l'ozone, on peut avoir une production de formaldéhyde et de particules fines qui, là, ont un impact sur la santé.
D'accord.
Et l'autre point que je voulais développer, c'était les facteurs qui ont été identifiés et qui expliquent la proportion plus élevée de logements qui présentaient un développement fongique. Il y a trois facteurs. Donc le premier, il est lié à l'écart d'humidité absolue entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. À partir du moment où cet écart est élevé en période de chauffe, on a un risque plus élevé d'avoir une contamination fongique qui se développe. Alors en fait, ça, physiquement, comment ça s'explique? C'est en fait, ça illustre le flux de vapeur d'eau qui se fait à travers la paroi, qui est généré par la différence de pression de vapeur d'eau entre l'intérieur l'intérieur du logement et à l'extérieur. Et ce déplacement, il se fait donc de l'ambiance de la plus forte concentration de vapeur d'eau vers la plus faible. Et donc en hiver, c'est dans les atmosphères intérieures qu'on a des concentrations de vapeur d'eau qui sont très élevées, à la différence de l'extérieur. Et donc, du coup, on a ce flux de vapeur d'eau qui va se diriger donc de l'intérieur vers l'extérieur. Et s'il y a des points froids à l'intérieur de la paroi, on va avoir condensation. Et donc, condensation veut dire eau liquide disponible qui pourrait alimenter les moisissures qui se trouveraient là. Le deuxième aspect, c'est le délai d'enquête. On s'est aperçu que... si on mesure l'indice de contamination fongique de façon très rapprochée par rapport à la date de fin de construction, de fin des travaux, on a plus de chances de voir un développement fongique que si on attend plusieurs mois, voire années. Et en fait, ça semble indiquer qu'on a une humidité résiduelle qui est due à la construction, aux travaux de rénovation.
Pendant les travaux, donc finalement, travaux, ça s'est développé.
Exactement. Alors ça, c'est ce qu'on recherche, mais l'idée, c'est qu'on se dit, il y a toute cette humidité qui était pendant la phase de travaux, et donc il faut du temps maintenant pour qu'elle s'évapore, elle va pouvoir s'évaporer ou s'évacuer. Alors, en période d'occupation, lorsque les occupants seront là, lorsqu'on aura le système de chauffage et le système de ventilation, et où les occupants vont aussi aérer. Et l'autre point, c'était l'utilisation de la filière humide. Et bien, effectivement, quand on fait une construction en filière humide, c'est-à-dire qu'il utilise de l'eau, pour la mise en œuvre des éléments, le béton, les chapes, et bien cette eau-là, elle va contribuer à l'excès d'humidité sur le bâtiment, alors que quand on est en ossature bois, on n'a pas ce phénomène-là, évidemment. Et puis enfin, dans les parois de la filière humide, on a généralement dans une paroi plusieurs composants, et donc on multiplie le risque de condensation, alors que dans l'ossature bois, c'est plutôt limité. Je voulais après indiquer qu'on avait d'autres résultats de ce programme que je n'ai pas présenté là. On a des résultats sur la qualité de l'environnement intérieur perçu par les occupants ainsi que leur satisfaction. Alors, dans les logements performants en énergie, on a fait un état descriptif et on a essayé de rechercher les facteurs qui expliquaient la perception des occupants. On a également fait un état descriptif de la qualité de l'environnement intérieur dans les bâtiments tertiaires, mais là, l'effectif était très limité, on avait 17 bâtiments. Voilà. Et donc, dans la continuité de ce programme, mais hors OQAI, dans le cadre du CSTB, on est actuellement en train de finaliser le projet qualité sanitaire et énergétique des rénovations, qui fait partie d'un des 9 programmes du programme Profil, qui est financé par les certificats d'économie d'énergie, où là, on travaille sur la qualité de l'environnement intérieur, qualité d'air, confort et consommation d'énergie dans des bâtiments rénovés qui ont subi une rénovation énergétique importante. Voilà, donc j'ai fini ma présentation et je voulais remercier tous les financeurs du programme, tous les opérateurs et les participants à cette étude.
Bah on le voit encore, une étude extrêmement pertinente et intéressante, justement, alors que se profilent ces futures réglementations. On a besoin d'avoir ces données-là. Alors avant de passer à notre discussion, nous allons nous connecter avec Yael Laverge. Vous êtes professeur et chercheur de l'Université de Gand en Belgique. Est-ce que vous pouvez mettre justement ces travaux en perspective au niveau européen? Comment ça se passe?
Oui, merci. D'abord, merci de nous voir en distanciel comme ça.
On est très content de vous avoir avec nous.
J'aimerais quand même dire que c'est assez étonnant de voir 3 intervenants néerlandophones s'exprimer en français pendant cette...
Mais je vous salue tout à fait, mais oui, on vous en remercie beaucoup d'ailleurs, parce qu'on n'est pas très bon en néerlandais en France, malheureusement.
C'est juste un peu drôle, mais bon, si les diapos pourraient
être on va démarrer.
Montrer, ouais. Donc, comme vous aviez dit, on m'a demandé de mettre un peu de perspective européenne sur la thématique des performances énergétiques et la QAI. Et donc, prochain diapo, s'il vous plaît. Ça a déjà été évoqué quelques fois. Pendant une période de plus ou moins de 20 ans, on a fait une transition d'une construction plus ou moins traditionnelle vers une construction performante en énergie qui met un accent très fort sur l'isolation, l'étanchéité, la maximisation des gains solaires, par exemple, et pour comme alternative pour l'air qui venait par l'étanchéité, ben, on met un système de ventilation qui permet un flux d'air contrôlé. Donc ça, c'est un peu la transition qu'on a fait. Comme a été dit il y a quelques minutes, prochain diapo s'il vous plaît, on voit que si tout est fait de manière plus ou moins convenable, ben, la QAI, donc ces bâtiments performants en énergie, est plus ou moins la même, voire même un peu mieux grâce à la ventilation performante que dans les bâtiments traditionnels. On voit ça en France, mais on voit ça aussi dans d'autres pays. J'ai ici mis quelques images d'une étude faite par Marc Abadi et quelques collègues à La Rochelle dans le cadre d'une annexe de l'Agence internationale d'énergie qui montre plus ou moins les mêmes résultats pour la Belgique. Ok, prochaine diapo, s'il vous plaît.
Alors, je crois que vous avez c'est une vidéo, hein, me semble-t-il, c'est ça ?
Oui, voilà. Donc,
vous pourriez peut-être nous expliquer ce que vous vouliez mettre.
Oui. Donc, la prochaine diapo, c'est une vidéo qui montre un peu la stratégie actuelle. Donc, j'ai parlé d'un arc de 20 ans où on a introduit partout en Europe, des législations pour améliorer la performance énergétique des bâtiments. Ça s'est concentré majoritairement sur la nouvelle construction, mais maintenant, on veut vraiment aller vers la rénovation. Et donc, j'ai une très courte vidéo issue de
qui l'Union nous illustre européenne ça.
Pour, voilà, ça qui montre un peu cet accent.
Allons-y.
I want Next Generation EU to kickstart a European renovation wave and make our union a leader in the circular economy.
Renovation is a win-win solution. It will reduce energy bills and improve people's living conditions. It will create jobs and help recovery, and it will help us to become a carbon-neutral continent by the middle of this century.
The green recovery must begin where we live, work and study. We need better buildings to build back better. Our renovation wave will support families and businesses who want to insulate their homes and offices, green their roofs, install charging points for electric vehicles in their garages, or heat and cool their homes with self-generated renewable energy.
On voit donc oui l'importance que l'Europe, l'Union européenne met désormais dans la rénovation énergétique. On a cette ambition bas carbone d'ici 2050. Alors c'est vrai qu'on s'est beaucoup attaché à vous le disiez donc dans cette transition qui est d'abord énergétique dans le bâtiment neuf. Maintenant on va vers la transition environnementale, mais il est vrai que l'effort doit être monté et porté par la rénovation. Et là du coup on commence par la rénovation énergétique justement, et ce qui change beaucoup de choses. Je vous redonne la parole, Monsieur Laverge, allez-y.
Très bien, merci. Donc, oui, comme vous le disiez, comme ça a déjà été évoqué quelques fois pendant la journée, hein, donc le mot-clé pour les 30 ans qui viennent, c'est la rénovation. Pourquoi ? Ben, parce qu'on a un parc de bâtiments très important qui doit aussi avoir la même transition qu'on a eue pour la nouvelle construction. Donc, si on peut passer à la diapositive 5, s'il vous plaît. Voilà. Ce que ça veut dire, c'est que pendant les années qui viennent, les décennies qui viennent, on va avoir une transition très importante au niveau de l'installation de systèmes de ventilation, parce que on on estime que une vingt-cinquantaine de pourcents des bâtiments vont avoir une installation d'un nouveau système de ventilation pendant les 25, les 30 ans qui viennent. Et donc, on a déjà vu ça ce matin aussi. Si le système ne fonctionne pas bien, ben, en fait, ça peut avoir un effet dilatoire sur la qualité d'air intérieur. Pour ça, l'initiative aussi européenne de mettre en place des systèmes de contrôle de qualité de systèmes de ventilation, une démarche qui en France est déjà bien en route, mais qui peut avoir un impact assez important. Prochain diapo, s'il vous plaît. Donc, où on voit si la différence qu'on peut avoir en termes d'exposition aux polluants pour les occupants, si on prend des mesures de qualité ou on ne prend pas, et on voit quand même qu'il peut avoir une différence globale sur le stock de 20%. Prochain diapo, s'il vous plaît. J'ai encore deux autres perspectives que je voulais mettre en valeur. C'est d'abord les évolutions technologiques. On a, à cause du Covid, une nouvelle ambition d'augmenter les flux de ventilation. Bien sûr, ça a un impact énergétique et ça met aussi en valeur ou sur l'avant-plan, en tout cas, les systèmes de purification et de filtration d'air comme alternative pour la ventilation qui pourrait avoir un potentiel énergétique qui est mieux que la ventilation avec l'air froid, surtout en hiver.
Donc des avancées technologiques qui peuvent appuyer justement tout ce contexte un peu important.
Mais qui ont aussi des dangers parce que c'est de la nouvelle technologie. On n'a pas encore tous ces aspects qualité que je viens d'évoquer pour la ventilation. Donc, ça nécessite encore beaucoup de travail pour traduire les performances labo de ces systèmes en performance sur le chantier, sur site, dans les bâtiments, sur site, voilà. Et de même, prochain diapo, s'il vous plaît, on a vu aussi dans des études, ici un exemple d'une étude qu'on a menée ensemble avec le Vito, donc avec Marianne qui a parlé ce matin, où on voit aussi l'impact très primordial de la qualité de la main-d'œuvre pendant la rénovation. On voit ici les concentrations TVOC causé par une infiltration pour éviter la montée d'eau, une hydrofuge, une infiltration d'hydrofuge, et on voit dans deux maisons de très différentes concentrations qui en résulte. Et donc, la manière dont ces techniques sont utilisées sur chantier ont aussi un impact très important sur la qualité d'air et les polluants auxquels les occupants sont exposés directement après, mais aussi plus que 6 mois après l'intervention. Donc, la main-d'œuvre est aussi, si on va vers une vague de rénovation, un point de vigilance très important. Et puis, il y a encore un troisième point, prochain diapo, s'il vous plaît. On sait, si on fait des rénovations du point de vue énergétique, ben, ce n'est que, en fait, pour les bâtiments très performants, qu'on voit une baisse importante de l'énergie utilisée. Et donc, toute la première partie de EAA, ici dans le graphe, a surtout un impact sur le confort. Et ça va augmenter les températures, par exemple, dans le bâtiment, prochaine diapo, s'il vous plaît, et donc ça va avoir un impact sur tous les équilibres chimiques, physiques entre les poumons dans le bâtiment, et ça peut avoir un impact sur inattendu sur la QAI. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et dernier point, c'est bien sûr que tout cela se fait dans un contexte économique qui n'est pas simple et qui a vu ces derniers mois une augmentation spectaculaire des prix d'énergie. Prochaine diapo, s'il vous plaît. En même temps, on sait déjà, même avec les prix qu'on avait avant, que pour, ici c'est une étude menée pour la Flandre, mais on voit plus ou moins les mêmes conclusions dans des autres régions, c'est que plus ou moins la moitié des gens n'ont pas les moyens financiers et ne peuvent pas, même pas atteindre par emprunt les moyens financiers pour financer cette transition énergétique avec le bâtiment qu'ils ont, ce qui veut dire, dernière diapo s'il vous plaît, que on risque d'avoir une situation où la transition énergétique va déclencher pas mal de problèmes secondaires où des gens vivent dans des bâtiments qui sont mal maintenus et vont, de ce point de vue-là, évoquer des problèmes de QAI. Et donc,
cette dimension touche l'ensemble. On parle de problématiques tant bien sûr sanitaires, et c'est aussi l'objet de notre journée. Hein, on l'a beaucoup évoqué, mais voilà, ça a aussi beaucoup d'impact économique, sociaux, et ça à l'échelle internationale.
Oui, voilà. Et donc on va devoir penser très fort comment. Est-ce qu'on va protéger les gens qui n'ont pas les moyens pour faire tout ça de manière technique
Oui, parce qu'il ne suffit pas. Il faut pouvoir faire sa rénovation. Et puis en plus, il faut pouvoir derrière être dans des bâtiments entretenus. Merci beaucoup, Monsieur Laverge. Donc je rappelle aux gens qui nous suivent que bien sûr, vous pouvez poser vos questions directement dans le chat. Je me tourne maintenant vers nos deux discutants. Alors, il y en a un qui est à distance, qui est Monsieur Patrice Blondeau de l'Université de La Rochelle. Mais nous avons... Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. Et je me tourne également vers Marie-Angèle Sanchez de l'agence qualité construction. Alors justement, j'ai envie de commencer par vous parce que on l'a vu, voilà, il y a la problématique des bâtiments aujourd'hui. Donc faire des bâtiments sobres et performants en énergie, c'est super, mais il faut aussi s'occuper de la qualité de l'air intérieur, comme on l'a vu. Quelle réaction vous avez par rapport à ce que vous avez entendu? Quels échos ça a fait à vos propres travaux?
Très bien. Tout d'abord, j'ai souhaité remercier l'OQAI de m'avoir convié à intervenir aujourd'hui et les féliciter pour ces premiers argentins. Comme l'OQAI, depuis 2010, on s'est intéressé justement aux risques qui pouvaient entraîner ces nouvelles constructions. Et donc, on a mis en place un dispositif qui s'appelle le dispositif REX Bâtiments Performants, retour d'expérience sur les bâtiments performants, qui est une enquête des terrains. Et qui nous a permis de visiter en 2020 plus de 1600 bâtiments partout en France sur la base du volontariat, tout comme sur le projet qui a présenté Michael, et qui nous a permis d'identifier des risques émergents en lien avec les bâtiments performants, que ce soit performants en énergie ou d'un point de vue environnemental ou sanitaire de manière large. Et on a obtenu effectivement des résultats qui étaient convergents avec ceux du programme BPE, puisque nous avons pu constater qu'effectivement, il y avait un développement fongique qui était supérieur dans ces types de bâtiments et dès la phase chantier, c'est ça qui nous a surpris, chose qui avait moins été identifiée auparavant. Et qu'on peut relier à différents facteurs, notamment l'exposition des différents matériaux aux intempéries, donc des matériaux qui sont transportés, stockés ou mis en œuvre non protégée, d'une manière non protégée. Également, cette interaction avec la performance énergétique, c'est-à-dire que dans les constructions performantes, il y a une étanchéité à l'air qui a été renforcée, il y a moins des fuites parasites, il y a une surisolation également. Et donc, pour des raisons de vandalisme aussi, un confinement d'air intérieur à l'intérieur des chantiers pendant la construction, qui, nous pensons, est à l'origine de ces développements fongiques supérieurs.
Et comme finalement, le chantier ne s'est pas assez aéré lui-même.
Tout à fait. Ils sont rarement aérés, ou seulement pendant les moments dans lesquels on travaille, pendant des longues heures, les week-ends ou pendant des périodes de congés.
Et puis si en plus les planches fermés. Ou les matériaux qu'on a pu utiliser ont pris la pluie, ont été bâchés sans doute, mais bon, voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ça a des enjeux aussi.
Tout à fait. Il y a des filières aussi qui sont traditionnelles, de type béton ou autres filières dont la mise en œuvre s'est faite en phase humide, qui contribuent de manière forte à cette humidification en quelque sorte de l'ambiance intérieure des chantiers.
Mais alors c'est pas dû qu'au chantier, hein. Je crois que même une fois livré aussi, le bâtiment peut développer, on l'avait un peu entrevu tout à l'heure, je crois que c'était dans la session de bureau me semble-t-il. Voilà, donc une fois livré aussi, ça peut se développer.
Tout à fait. C'est vrai qu'on n'est pas rentré aujourd'hui dans les déterminants qui poussent au développement fongique, mais est nécessaire la présence de cellulose, est nécessaire la présence d'eau et des températures douces. Et on avait constaté aussi que dès lors que les bâtiments étaient livrés et qu'ils avaient fait l'objet des moisissures pendant la phase chantier, dès lors qu'il y avait des conditions favorables qui se présentaient, par exemple l'arrêt des systèmes de ventilation, on pouvait aboutir à des nouveaux développements fongiques, et c'est quelque chose qui est régulièrement détecté quand il y a des fuites, par exemple, à l'intérieur des bâtiments et des petits dysfonctionnements du système de ventilation. Et par ailleurs, on a détecté aussi d'autres interactions entre la qualité de l'air intérieur et la qualité de l'air intérieur que je veux peu détailler. Mais essentiellement, ce qui a attiré aussi notre attention, c'est que dans la plupart des bâtiments que nous avons visités, il y avait des dysfonctionnements, des non-qualités, voire des non-conformités vis-à-vis de la réglementation concernant les systèmes de ventilation.
Merci beaucoup pour cet éclairage. Alors, monsieur Blondeau, c'est intéressant justement de. On a vu donc toute cette étude, ce qu'apporte l'OQAI. Alors, vous-même, peut-être nous dire en quelques mots, vous travaillez donc dans un laboratoire, vous traitez des problèmes de la qualité de l'air intérieur sur l'angle physique, hein, c'est bien ça. Donc, voilà, les transferts et les transports de polluants. Donc, j'imagine que tout ça est assez intéressant aussi pour vous, toutes ces données qui permettent aussi d'orienter vos recherches. Mais alors, du coup, on parle en plus d'une future réglementation. Quelles solutions peuvent être envisagées? À quoi faut-il faire attention? Quelles solutions d'amélioration de la qualité de l'air intérieur peuvent être envisagées pour ces bâtiments?
Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que c'est très intéressant cette session sur les bâtiments performants en énergie et la qualité de l'air, parce que il y a vraiment un cadre qui est donné par l'énergétique dans le domaine du bâtiment. On sait bien que tous les développements qui se font prioritairement pour des considérations de sobriété énergétique et de climatique finalement, de changement climatique. Et c'est vrai que les développements en termes de qualité de l'air intérieur, ils doivent nécessairement prendre en compte cette contrainte. C'est d'ailleurs assez intéressant parce que pendant longtemps, on a considéré que qualité de l'air intérieur et performance énergétique, c'était deux notions qui étaient antagonistes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on voulait avoir de la qualité de l'air, il fallait forcément consentir un coût au niveau énergétique. Alors que le véritable challenge, si on peut dire, pour tout le monde, notamment pour les concepteurs de bâtiments, pour les pouvoirs publics, c'est justement de concilier ces deux préoccupations, de trouver des solutions, des modes de construction qui concilient ces deux préoccupations. Et c'est vrai que pour la recherche, la recherche qui englobe plusieurs composantes. C'est vrai que de mon côté, je travaille plutôt sur les phénomènes de transfert des polluants à l'intérieur des bâtiments, mais pour tout le monde, l'observatoire, c'est un outil formidable, parce que mine de rien, 20 ans d'observatoire, c'est quand même l'observation d'une frange de vie conséquente de la qualité de l'air intérieur. Et à travers les données des campagnes nationales, notamment, qui ont été menées, on voit bien l'évolution des problématiques. C'est-à-dire que on sait qu'il y a des centaines, voire des milliers de polluants qu'on peut trouver dans les environnements intérieurs, mais à travers les travaux de l'OQAI, ben on voit les polluants qui appartiennent plutôt au passé. On voit au contraire les polluants sur lesquels il faut travailler, qui suscitent de l'intérêt désormais. Et puis je dirais même qu'en se projetant un petit peu, un des grands défis, c'est quand même d'anticiper par la réglementation, par la normalisation. C'est aussi à partir des données, et notamment de celles qu'a présenté Michael Derbez, c'est de se projeter à l'horizon 2050, à l'horizon 2100, pour envisager ce que pourrait être la qualité de l'air intérieur sous les effets du changement climatique. Donc véritablement, effectivement, pour répondre à la première partie de votre question, l'Observatoire de la qualité de l'air est un outil précieux pour orienter toutes les recherches dans le domaine et un outil que beaucoup de pays nous envient à l'international.
Alors justement, si on parle maintenant des solutions qui peuvent être envisagées, alors en plus vous l'évoquiez, à chaque fois on fait la balance entre les réglementations, l'énergie, etc. Et donc là, enfin, Monsieur Derbez le disait tout à l'heure, finalement, par exemple, quand on est dans du biosourcé, du bois, on va avoir des spécificités. On a une prochaine réglementation qui arrive, qui elle s'angle là-dessus. Alors comment est-ce qu'on peut avancer ? Quel type de solutions peuvent-elles être envisagées?
Très bien.
Ouais. Les solutions, elles sont bien connues. Elles se répartissent en trois grandes familles. C'est le fameux triptyque hiérarchique et consensuel. D'abord, limiter les émissions au maximum par les matériaux, par les produits, par les activités que l'on pratique à l'intérieur. Ensuite, la ventilation, le renouvellement d'air pour limiter les concentrations, et enfin, en dernier ressort, l'épuration de l'air. En sachant qu'effectivement, le contrôle des émissions, la limitation des émissions, c'est la manière la plus pragmatique, mais également la plus économique pour aborder le problème. Et ce qui ressort aussi de l'exposé de Michael, c'est que globalement, je crois qu'il ne faut pas tomber dans le catastrophisme non plus. La qualité de l'air, globalement, elle s'améliore dans le temps. Alors, quand on a commencé à avoir un peu d'expérience dans le domaine comme je l'ai, on voit ça à travers notamment le niveau de concentration de polluants bien connus, où on voit que les concentrations qu'on mesure maintenant n'ont rien à voir avec ce qu'elles étaient dans les bâtiments bien il y a sûr. 20, 30, mmh. 30 voire 40 ans. Donc ça, je crois qu'il faut quand même le souligner. Et c'est aussi l'occasion, c'est pas si fréquent de souligner l'action des pouvoirs publics, notamment en France, parce que tout ça s'est fait à travers les réglementations, notamment sur l'étiquetage des matériaux. Ça permet aux consommateurs de choisir leurs matériaux en connaissance de cause de la qualité de l'air qui peut en résulter. Mais ça a surtout amené à améliorer le marché. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fabricants qui, sous l'effet de la réglementation, de cette réglementation, ont amélioré leurs produits pour pouvoir prétendre à la meilleure étiquette possible.
Merci beaucoup. Excusez-moi, je vais juste donner la parole un petit peu à Madame Sanchez également. Je vois que l'heure tourne. Malheureusement, c'est un sujet passionnant. Je pense qu'on pourrait y rester plusieurs heures. Donc, vous le disiez vous aussi. Oui, voilà, il faut faire entrer cette santé dans le capital. Enfin, la santé doit faire partie des calculs. Pardon.
Tout à fait. Pour faire un parallélisme aussi avec ce qui a été dit avec Michael, comme pour la qualité de l'air, en fait, dans le bâtiment, il n'y a pas de nouvelles pathologies. Mais il y a peut-être une sensibilité accrue de ces bâtiments performants, et on le voit notamment pour ces développements fongiques. Mais d'une manière générale, de mon point de vue, la solution est dans une réflexion globale du bâtiment qui permet de concilier aussi bien la performance énergétique, la performance sanitaire, le confort et toutes les autres performances environnementales qu'on a besoin aujourd'hui de concilier dans le bâtiment. Donc je pense que le premier point, c'est vraiment de réfléchir très en amont et de la programmation, intégrer les différentes dimensions du bâtiment, dont la dimension sanitaire, mais aussi en quelque sorte de sensibiliser les professionnels, parce qu'aujourd'hui la qualité de l'air préoccupe beaucoup la société, et il faudrait qu'effectivement collectivement, aussi bien professionnels et particuliers, on arrive à pousser sur ces sujets, et notamment l'agence qualité construction et d'autres partenaires dans le cadre d'un appel à projet ADEME qui a été mené et piloté par le bureau d'études Indigo. On a mis en place des outils, des livrables à l'attention des professionnels permettant notamment de les sensibiliser et de les aider en fait, dans leur pratique quotidienne pour pouvoir intégrer la qualité de l'air intérieur et notamment à la phase chantier. Le projet s'appelle Ishakai, impact de la phase chantier sur la qualité de l'air intérieur. Et donc j'invite les potentiels professionnels connectés aujourd'hui à aller les regarder.
On souligne une nouvelle fois la pédagogie, la sensibilisation, tout ce que apporte aussi l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Alors peut-être un dernier mot, parce qu'on est un tout petit peu en retard, Monsieur Blondeau. Peut-être un dernier mot, vous voulez rajouter quelque chose ?
Non,
sur les nouvelles approches peut-être, mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est finalement dans les nouvelles approches, il faut arriver à prendre cette approche de la ventilation dans les bâtiments de manière plus globale et ne plus opposer certaines parties.
Du coup, oui, je voulais juste rebondir sur la ventilation, puisqu'il y a une avancée quand même phénoménale qu'on a aujourd'hui, puisque dans la RE 2020, on aura une obligation de contrôle des systèmes de ventilation à réception.
D'accord.
Chose qu'on n'avait absolument pas avant, et je pense qu'on va vraiment pouvoir vraiment se perfectionner sur cette filière-là.
Bien sûr. Et alors, Monsieur Blondeau, je crois qu'on en avait parlé, préparé un peu cette table ronde. Vous disiez aussi qu'il faut réfléchir à certaines stratégies, des solutions techniques qui permettent de penser la ventilation de manière différente.
Ouais, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudrait remettre à plat. Le professeur Skinazi le rappelait ce matin, la réglementation sur la ventilation, elle commence à être un peu poussiéreuse, elle date de 40 ans maintenant, elle est plus forcément adaptée aux usages, elle est surtout basée sur un concept que l'air extérieur est propre, on l'appelle l'air neuf dans le domaine du génie climatique, mais plus personne n'y croit. Ce matin, dans le cadre de la présentation de la campagne sur les écoles, on voyait bien qu'il y avait de la pollution, et qui interrogeait par rapport au benzène, par rapport aux particules fines, par exemple, et il faut remettre tout ça à plat, et effectivement, peut-être que le bâtiment soit plus résilient par rapport à la pollution de l'air extérieur. Il y a des développements technologiques qui sont envisagés, de nouvelles stratégies de ventilation qui s'inscrivent, encore une fois, dans ce contexte énergétique, qui prennent en compte ces contraintes énergétiques qui sont fortes.
Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Je suis désolée, on a été un peu, on n'avait pas beaucoup de temps et ce sujet est tellement passionnant. Donc merci à tous les trois. Voilà, c'était la fin de cette session qui concernait les bâtiments sobres et performants en énergie. La qualité de l'air intérieur peut être prise en compte également. Écoutez, on se retrouve d'ici un petit quart d'heure. Voilà pour la suite de notre programme. Quel chemin parcouru depuis 20 ans.
Les 20 ans de l'OQAI.